Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero pour vous présenter cette édition d'Escale portant sur la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. Nous entendrons des témoignages de victimes de ce terrible fléau qui sévit à travers la planète. Écouterons un psychologue en expliquer les douloureuses subtilités et reviendrons sur l'action entreprise par le groupe de travail de l'ONU sur la question pour porter assistance aux victimes et aider à mettre fin à cette haineuse pratique. Au Mali, plusieurs dizaines de personnes sont portées disparues, journalistes, militaires et des personnes albinos. Leurs proches sont tombés dans un vide physique et affectif. À l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, Barké Cissé revient sur leur sort difficile.
Bora télé la commerçante rudo image au banc. Unana kana bojinya kona chogo mina image au banc.
Toute seule dans son salon, elle s'incline pieusement devant le portrait de son fils. On croirait une stèle érigée au beau milieu de son séjour. En s'y rapprochant, l'homme peut apercevoir des images, celles de 21 personnes, dont les fils de Madame Sagara Bintou Maïga. Ces derniers font partie des 21 bérets rouges disparus en 2012 lors du contre-coup d'État. Son fils, le sous-officier Pangalais Sagara, n'a plus donné aucun signe de vie depuis ce jour-là.
Ça y est, qu'il est rendu. Ça en voit. Et bah donc on y dit qu'on tient à quoi on est autour de.
6 ans après l'événement, le vide physique et affectif continue de tourmenter la mère du disparu, Madame Sagara Bintou Maïga.
Fatim qu'on est au con au de Nimaka Percali. Ça veut dire que dans mon cadre, mina ou ben mina nakatanu ezemese la. Ni dit qu'on manade.
Je me souviens encore de notre dernière conversation dans laquelle il me disait « Maman, pardonne-moi, car je vais mourir. Et de grâce, occupe-toi de ma femme et de mes enfants. » Depuis ce moment, on souffre et on continue de souffrir, surtout pendant les fêtes, quand je vois les autres enfants avec leur papa et que ces enfants restent sans père. C'est très dur. Moi, j'ai la foi, certaines personnes de notre association sont devenues folles à cause de cette situation de disparition. Et d'autres sont même mortes. La disparition, c'est vraiment terrible. Pour moi, c'est encore pire, car il s'agit de mon premier enfant.
Malgré le cri de cœur des organisations de défense des droits de l'homme, le Mali continue d'enregistrer des cas de disparition forcée ou involontaire.
Je sais, pour avoir partagé leur vie pendant plus de 17 mois maintenant, qu'ils donnent les garanties, s'ils assurent que tu peux venir en toute sécurité, alors tu peux les croire.
Le 14 juin dernier, une preuve de vie de Sophie Pétronin apparaît dans une vidéo. L'humanitaire française a été enlevée fin 2016 au Mali. Depuis, son fils Sébastien ne perd pas espoir. Dans la vidéo, elle l'invite à venir passer un temps avec elle, une invitation qu'il a volontiers acceptée malgré les dangers qu'elle représente. Au micro de Sekou Gambi, il nous fait part de ses espérances.
Mon espoir, premièrement, c'est de lui remonter le moral, parce que ma mère ne va pas bien et elle n'a reçu la visite de personne pendant 20 mois. Donc déjà, c'est de lui rendre une visite qui lui redonne l'espoir d'une libération. Ma mère n'est pas seulement une citoyenne française, pour moi, c'est aussi une mère. C'est elle qui m'a donné la vie. Je me dois de lui venir en aide, même s'il y a des risques à prendre.
Lors d'une sortie, vous avez interpellé les autorités françaises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans ce sens ?
Bah écoutez, les autorités françaises m'ont déconseillé cette entreprise pour des raisons de sécurité. En revanche, ils comprennent tout à fait l'urgence de la situation et le contexte du fait que c'est une mère qui appelle au secours directement à son fils. Et cette situation inédite aussi, il y a un drapeau blanc qui s'est levé et puis les gens qui détiennent ma mère ont décidé de publier cette vidéo dans laquelle elle s'adresse à moi pour m'inviter à venir passer un moment avec elle, Je peux considérer que c'est une sorte de trêve et je peux considérer que je suis le bienvenu. Donc logiquement, comme le ferait un bon fils, eh bien je réponds favorablement à l'appel de ma mère.
Actuellement, quelle est la morale de la famille Petronet ?
Alors la famille est complètement unie autour de ma mère. Nous avons pris la décision tous ensemble, c'est-à-dire que mon épouse, mes enfants, mes cousins, mon père, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse se rendre auprès d'elle pour l'aider à tenir.
Quel est votre dernier appel à l'endroit des autorités françaises actuellement, là où vous décidez d'aller voir votre mère ?
Moi, je demande au gouvernement français qu'il m'aide dans cette affaire et surtout qu'il ne m'empêche pas d'aller voir ma mère. C'est tout peut-être possible de sécurité, la facilité pour obtenir des visas. Je demande la bienveillance de mon gouvernement dans cette entreprise et l'encouragement de mon gouvernement dans cette entreprise.
C'est la journée internationale célébrée pour la disparition et la sensibilisation des personnes disparues. Votre mère est en otage. Cette journée représente quoi pour vous ?
Effectivement, on est sur la journée internationale des victimes de disparition forcée. Pour nous, c'est une journée qui est très importante. C'est un triste anniversaire puisque ma mère a déjà perdu un fils. On est une petite famille, donc moi j'avais qu'un frère, donc je l'ai perdu, il a disparu. Tragiquement, aujourd'hui ma mère est absente et bien sûr le spectre de sa disparition plane au-dessus de la tête de la famille. C'est une journée qui est très importante pour nous. On essaye de rester dans l'espérance pour être bientôt réunis.
Quand tant de nos proches est porté disparu, la douleur est incommensurable et il est très difficile pour ceux qui restent sans nouvelles de vivre au quotidien, de prendre goût à la vie. À l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, Mimi Konaté a interrogé le docteur Ibrahima Haïdara, psychologue à Bamako. Il explique comment une famille peut arriver à surmonter la disparition d'un proche et comment on peut les aider.
Une personne disparue, c'est quelqu'un qui est parti depuis un certain temps, dont les proches n'ont pas de nouvelles, ou avaient un certain moment des brides de nouvelles et puis on n'en a plus. On peut parler de personnes disparues, notamment en Afrique, dans les pays où il y a les conflits armés, des personnes qui sont détournées par des groupes armés ou par des régimes autoritaires. Ces personnes partent pour des destinations inconnues, parfois torturées, et les proches s'inquiètent. Il arrive très souvent que les proches se disent que ces personnes ont été tuées alors qu'ils sont tout simplement séquestrés par des régimes ou des personnalités de mauvaise intention.
Justement, ces proches-là, comment est-ce qu'ils vivent ces disparitions à leur niveau ? Qu'est-ce qu'ils ressentent dans ces moments-là ?
Pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile qu'un deuil. C'est un deuil voilé. Quand quelqu'un décède, on est face à la mort. On est certain que la personne est décédée, il y a des funérailles qui sont organisées et puis on s'installe dans un processus de deuil. Alors que quand on est en face de personnes disparues, il y a deux processus. On se dit la personne est décédée ou la personne est vivante. Mais dans les deux cas, il y a un vide physique et un vide affectif. On ne peut pas entrer en contact avec la personne-là et on ne peut pas du tout avoir une idée assez précise de ce qu'elle vit au quotidien. Donc, quand c'est les parents d'un enfant, par exemple, ou d'un adolescent, la famille se fait de grosses inquiétudes parce qu'elle se dit que c'est un enfant, il ne peut pas se défendre, il est parti, peut-être qu'il a été tué accidentellement. Et la famille vit ça de façon très, très difficile, surtout les soirs. C'est le même processus qu'un décès. Dès qu'on se couche, on a, avant le sommeil, des idées noires qui viennent en nous et on se dit, la personne, elle est décédée. Ou bien la personne, elle est en train d'être torturée. Ou bien la personne, elle est partie vers une destination où elle va souffrir. De toutes les façons, ce sont des idées négatives que les proches vivent au quotidien. Les proches des personnes disparues sont des personnes qui risquent d'avoir beaucoup de difficultés à prendre goût à la vie.
Alors, vous êtes psychologue, c'est votre rôle de prendre ces personnes qui ont des difficultés. Quelles sont les étapes par lesquelles vous passeriez pour assister cette personne-là ?
Moi, je crois que le travail le plus important, donc en termes de priorité, c'est d'écouter la personne. Et il faut vraiment écouter la personne qui est directement concernée par l'enlèvement ou la disparition d'un proche. Quand on arrive à faire ce premier travail d'écoute, Il faut tout de suite essayer, comme dans toute procédure d'accompagnement de personnes en souffrance, essayer de localiser, de cibler les personnes qui peuvent à un certain moment réconforter la personne qui est directement concernée par l'enlèvement ou la disparition d'un proche. Et quand on arrive à faire ces deux étapes, on peut commencer à essayer de réconforter la personne, mais tout de suite en lui disant de ne pas penser à la mort. Parce que les gens commettent cette erreur de penser qu'une personne disparue est tout de suite décédée par accident ou par enlèvement. Alors qu'il y a des enlèvements qui durent des années et des années, des décennies.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío.
En 1980, à la demande des familles des victimes de l'Amérique latine et des maires de la Plaza de Mayo en Argentine, la Commission des droits de l'homme a créé un groupe de travail pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires.
C'est notre ultime espérance.
Il avait un mandat d'un an. Depuis, son mandat a été renouvelé continuellement. Le groupe a reçu plus de 56 000 plaintes. Aujourd'hui, 45 000 de ces plaintes sont toujours en souffrance. Ouria Eslami est membre du groupe depuis 2014. Au micro de Florence Westergaard, elle revient sur la pratique et le travail du groupe.
Cette pratique, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, qu'elle a peut-être existé en Amérique latine ou dans d'autres pays pendant les années 70 ou 80, bien au contraire, la pratique continue d'exister et même si elle prend d'autres formes dans des pays, dans des contextes aussi divers que généralisés, mais elle existe encore et beaucoup de personnes continuent à être victimes de cette grave violation des droits de l'homme. Certains pays, comme le Mexique, la pratique est toujours en vigueur. Elle a commencé aussi à apparaître dans des contextes politiques bien déterminés, dans les contextes de guerre dans certains pays ou dans le contexte de lutte contre le terrorisme, comme c'est le cas par exemple en Égypte et dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, comme le Yémen, en Syrie, en grand nombre. Et donc, bien sûr, aucun contexte politique ne peut justifier la pratique de la disparition forcée, mais on peut dire que cette pratique est plus apparente dans la région MENA aujourd'hui, mais aussi dans beaucoup de pays d'Afrique.
Et comment peut-on établir des mesures qui visent à apporter la vérité et la justice dans les cas de disparition forcée?
Bien sûr, ça c'est une grande problématique et je vous remercie pour cette question. Justement, le groupe de travail est en train de préparer une étude sur les politiques publiques en matière de recherche et d'investigation sur les disparitions forcées. Il y a des mesures judiciaires, il y a des mesures législatives, mais il y a aussi la mise en pratique de toutes ces mesures, ce qui veut dire qu'il y a une nécessité impérieuse aujourd'hui d'établir des politiques publiques au niveau de chaque pays pour la recherche et l'investigation au sujet des cas de disparitions forcées. Il y a beaucoup de pays qui ont adopté des mesures législatives et ceux particulièrement qui ont ratifié la Convention contre les disparitions forcées ou involontaires. Ils ont prévu des dispositions législatives et des mesures judiciaires, mais elles restent néanmoins peu efficaces en l'absence de politiques publiques claires qui permettent de mener des investigations impartiales et efficaces pour révéler le sort des disparus et aussi engager les autres mesures prévues par le droit international, telles que la réparation et autres mesures en faveur des proches des disparus.
Vous faites partie justement du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Que fait justement ce groupe de travail?
Ce groupe de travail, il a deux missions. Une mission de recours, ça veut dire que les proches des disparus ou les ONG peuvent nous envoyer des plaintes là où ils sont. Et nous sommes compétents à recevoir des plaintes des victimes de tous les États qui sont membres des Nations Unies. La deuxième partie du mandat est la partie, si on veut dire, monitoring. Dans ce contexte, on peut effectuer des visites dans des pays pour évaluer la situation globale de la disparition forcée, émettre un rapport et aussi des recommandations pour garantir le droit à la vérité, à la justice et à la réparation pour les victimes, mais aussi pour aider ces pays à prévoir des mesures préventive contre la pratique de la disparition forcée. Je dirais enfin que c'est une pratique abominable qui, avec les efforts de tous, nous devons y mettre fin dans les années prochaines à venir. Au 21e siècle, c'est une honte pour l'humanité si on continue à avoir cette pratique haineuse qui porte atteinte à la société tout entière.
Et c'est avec cet appel à l'action d'Ouria S. Slami que se referme cette édition d'Escale, consacrée aux victimes des disparitions forcées. Escale, un magazine hebdomadaire d'ONU Info, à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.